Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cette émission vous est proposée avec la fascinante participation de Charlie Maugin, Exidium, Laurent Bourguignon, Cèdre Tellard, Jérôme Tisson, World Radio Paris, David Hubert, Olivier Guyet, Benoît Galati et Jacob Boily. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute technologie, internet et gadgets. Oui, non, l'actu, c'est encore mieux. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et je suis avec, notamment, vous venez d'entendre sa voix, Siegfried Touvenot, alias Captain Web, qui revient faire des siennes dans le Rendez-vous Tech. Comment ça va, Siegfried? Oui.
Eh ben ça va bien. Et toi, ça va?
Bah écoute, je suis en forme. Il fait un petit peu froid là-haut dans le nord, dans le Grand Schnorr en Finlande.
Merci de m'avoir invité en tout cas.
Bah ça fait toujours plaisir de t'avoir. J'espère que tu seras un petit peu plus sage que dans ton émission le Captain Web, que nos auditeurs connaîtront peut-être un petit peu.
Mais bon, je suis invité chez quelqu'un d'autre.
C'est ça, oui. Mais on est à l'abri de rien, on ne sait jamais. Merci en tout cas d'être là. Une autre personne nous rejoint également, c'est sa première apparition dans le Rendez-vous Tech, Marie-Amélie qui est là. Marie-Amélie, alors ton nom de famille du coup c'est Frère, hein, c'est bien comme
c'est
ça
Frère, exactement. Bonjour, d'accord. Patrick.
D'accord. Bonjour, merci à toi d'être avec nous. Le capitaine Siegfried, on le connaît un petit peu, hein, c'est un animateur de podcast un petit peu n'importe quoi. Toi par contre, on ne connaît pas. Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous dire ce que tu fais, d'où tu viens?
Pas de souci. Alors moi, je suis moins tech que vous deux. Je suis coprésidente d'une association professionnelle qui s'appelle Girls in Web et dont le but est la mise en avant des carrières féminines du numérique. Voilà, moi j'ai plutôt travaillé dans tout ce qui est marketing, communication et gestion de projet.
Bah écoute, c'est plutôt pas mal parce que on a des sujets qui s'en rapprochent un tout petit peu, et notamment ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'arrivée enfin de la VR en 2016 qui se confirme avec des annonces de Sony sur sa PlayStation VR. On va aussi avoir une sortie un petit peu inattendue de la prochaine version d'Android, Android N. On a un show justement très marketing, j'ai trouvé, le show Hello 4. De 2016 donc d'Orange, dont on va vous toucher quelques mots, et la conférence d'Apple, vous le savez, elle a lieu ce soir au moment où on enregistre, mais on va refaire comme on l'avait fait la dernière fois, un voyage dans le temps. On va aller regarder dans le futur parce qu'on sait déjà tout, donc on va pouvoir vous dire tout ce qu'on sait, et vous pourrez nous dire dès ce soir si on avait tout bon ou pas tout bon. Ça sera amusant de le faire comme ça, et bien sûr on aura ensuite les news et les rumeurs comme à l'habitude. Un premier sujet qui est celui de la réalité virtuelle, et à mon sens ce qui était vraiment le coup d'envoi de la réalité virtuelle en 2016 avec la GDC qui est la Games Developer Conference qui a lieu tous les ans, hein, qui réunit en fait tous les développeurs qui vont parler de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils savent bien ou moins bien faire, et qui donne vraiment les tendances sur l'année et les années à venir. Et là, c'était incroyablement clair. Tout le monde ne parlait que de réalité virtuelle. Et on va voir que c'est le cas ensuite dans d'autres moments de l'émission et peut-être un petit peu moins attendu. Mais en fait, c'était vraiment le sujet qui occupait toute la conférence. Il ne parlait que de ça. C'est une sorte de d'explosion de réalité virtuelle. C'était le seul sujet. Et évidemment, on a eu la PlayStation, enfin Sony, qui a annoncé le prix de sa PlayStation VR, son casque de réalité virtuelle, qui sera de $399 ou à peu près 400 euros, on va dire, qui vient en opposition avec les deux autres gros casques que sont l'Oculus Rift à plus de 600 euros et le HTC Vive à plus de 800 euros. Alors, il faut préciser que pour le PlayStation VR, ces 400 euros n'incluent pas un des accessoires importants qui est la caméra, mais la caméra coûte $60 à peu près, quelque chose comme ça. Certains utilisateurs de PlayStation rares l'ont déjà, mais en gros on est en dessous de 500 euros pour un casque de réalité virtuelle, et même un petit peu moins si on a déjà certains des éléments. Il y a eu des titres qui ont été présentés, des jeux qui ont été présentés par Rift pour son lancement qui arrive là dans une semaine, le 28 mars. Le HTC Vive, on en a parlé aussi, il y avait quand même un petit peu moins de buzz autour, surtout qu'il y a peu de titres exclusifs pour le HTC Vive, à vrai dire même pas vraiment de titres exclusifs.
Le Vive, c'est celui qui est avec Steam, c'est ça ?
Exactement, c'est celui-là, ouais. Mais donc, voilà, il y a une vraie effervescence autour de la réalité virtuelle. J'aimerais poser la question à un amateur de tech et à une personne qui est un petit peu plus loin de la tech. D'abord, peut-être me retourner vers Marie-Amélie. On a eu pas mal de grosses évolutions tech ces derniers temps. On parle de la 3D notamment, qui a laissé un petit peu, on va dire, un petit peu froid le grand public. De là où tu te situes, peut-être même au niveau marketing, enfin, comment tu le vois, toi, avec ton expertise, cette histoire de réalité virtuelle, est-ce que c'est entré dans ta sphère de conscience? Est-ce que c'est encore un petit peu loin? Est-ce que c'est un coup marketing? Tu le vois comment, toi, la réalité virtuelle?
Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai un cardboard chez moi, donc je l'ai testé à la maison avec mon iPhone. Le fait d'avoir les yeux à 3 cm de l'écran, c'est quand même pas le truc le plus agréable du monde. L'autre jour, j'avais été invitée à une soirée avec Arte, qui a lancé un espèce de webdoc sur Philippe K. Dick en réalité virtuelle aussi. Donc j'ai testé le truc. Moi, j'avoue que ça pèse 3 tonnes, c'est compliqué, on est un peu claustro. Je trouve que pour l'instant, la résolution est pas encore au top. On a vraiment l'impression d'avoir les yeux collés contre une télé, c'est assez désagréable. Mais après, pourquoi pas, hein. J'avoue que j'ai été assez étonnée que la réalité augmentée ne marche pas aussi bien qu'annoncé. Alors, quoi dire de la réalité virtuelle? Il y aura sûrement des tas d'applications. Est-ce que ce sera quelque chose grand public quand on voit comme les télés 3D ont pas fonctionné? On va voir.
Ouais. C'est vrai que tu fais écho au sentiment de beaucoup d'auditeurs, hein. À chaque fois qu'on parle de réalité virtuelle, il y a des gens qui nous disent voilà, technologiquement on n'y est pas encore, c'est lourd sur la tête, l'écran, la résolution, c'est pas ça. Et puis surtout, effectivement, je me souviens de la réalité augmentée, même à travers les téléphones, on parlait au tout début des téléphones, oh là là, regardez, vous allez pouvoir voir où sont les magasins que vous recherchez en mettant votre écran devant vos yeux, et ça va vous indiquer en réalité augmentée. Oui, en fait, tout le monde s'en fout. Est-ce qu'il va y avoir une utilisation à la réalité virtuelle? C'est une grande question aussi. Toi, Siegfried, donc mini sondage sur nous trois. Toi, t'y crois un petit peu plus en tant que amateur de tech, peut-être un petit peu plus.
Honnêtement, j'aimerais bien y croire, mais j'ai du mal. J'ai du mal.
C'est vrai.
Déjà pour d'un point de vue technique, pour moi, c'est pas trop un souci, parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester la première version de l'Oculus Rift, et honnêtement, c'est vrai que tu as des sensations, c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais qu'on nous promet depuis longtemps. Pour moi, les principaux problèmes, c'est le prix, parce que avec Sony, on est à 400 euros, mais on est quand même à on a moins de capacité technique qu'avec les solutions de l'Oculus ou avec le Vive. Et ensuite, c'est le contenu, parce que côté contenu, on attend quand même encore un peu.
Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que il ne fait aucun doute que cette génération est la première génération sur les casques haut de gamme qui se connectent à un PC. On a techniquement peut-être certainement des capacités beaucoup plus élevées que sur les casques un petit peu plus bas de gamme, et notamment le PlayStation VR qui lui a une résolution d'écran plus faible. Et donc Mais même sur ces casques haut de gamme, on a quand même le problème d'avoir un énorme truc sur la tête. C'est une première génération, oui. C'est certain. Le casque PlayStation VR est celui qui est, d'après tous les tests, le plus confortable. C'est vrai qu'il repose bien sur la tête comme une sorte de...
Il est plus léger aussi, non ?
Il est un petit peu plus léger, mais surtout, la manière dont il est agencé, ça devient une sorte de casquette qu'on se pose sur la tête et qui ne repose pas entièrement sur le nez. Donc, il est un petit peu moins inconfortable que les autres. La résolution est moins bonne, mais le résultat, l'effet waouh est quand même là parce que il n'y a pas de lag d'affichage et la qualité de, disons, la quantité d'affichage étant 60 images par seconde au minimum, donc 60 à 90 images par seconde. Donc il n'y a pas d'effet vomitif, on va dire. Donc, moi, je crois vraiment à cette PlayStation VR parce que, enfin, comment dire, je pense que Sony, avec cette annonce de, annonce sur le papier de 400 euros, a gagné le premier round de la bataille de la VR parce que ils ont une base installée qui approche les 40 millions de consoles, et les 40 millions de consoles s'opposent à, on va dire, 10 à 15 millions de PC qui peuvent faire tourner de la réalité virtuelle.
C'est le plus gros problème, à mon avis, c'est que si tu veux utiliser l'Oculus Rift, il te faut un PC de compétition, tu pourras pas le faire tourner avec juste un ordinateur portable que t'as acheté pour, même pour 1000 euros, je pense que t'es carrément pas dedans. C'est vrai que de ce point de vue-là, le casque de Sony a quand même beaucoup d'avantages. Mais déjà, ils étaient obligés de rester en dessous de ce prix vraiment
symbolique,
du prix symbolique de la PS4, quoi. Parce que payer plus pour un accessoire que pour la console elle-même, c'était quand même difficile à vendre, quoi. Après, ça monte à 500 euros avec les accessoires.
Disons que oui, ça monte à 500 euros avec les accessoires, et puis surtout, la PlayStation aujourd'hui est à 350 euros. Donc c'est quand même un petit peu plus cher. Mais l'ensemble, en fait, ce qu'on a beaucoup fait remarquer, c'est que l'ensemble coûte à peu près le prix d'un casque seul pour PC. Par contre, ce que me font remarquer beaucoup d'auditeurs régulièrement, c'est que le casque pour PC s'adresse aussi à des joueurs, et ces joueurs, enfin les gens qui ont un de ces 13 millions de PC qui peuvent faire tourner de la réalité virtuelle, ils seront peut-être plus prompts à acheter un casque de réalité virtuelle que les 40 millions d'utilisateurs de PlayStation, dont certains l'utilisent peut-être uniquement pour jouer à un jeu de temps en temps, et la réalité virtuelle ne les intéresse pas tant que ça.
Ouais, quand tu as claqué 3500 euros dans un PC de compétition, effectivement, 1000 euros de plus pour un casque, ça peut
c'est
aller.
Pas faux, ouais.
Mais je suis un peu comme Marie-Amélie, je me dis que le problème, c'est, j'ai peur que ce soit comme la 3D pour les films, tu vois, quelque chose qui va au final qui sera pas, va pas être adopté et qui risque de tomber un peu dans les oubliettes d'ici un an ou deux, quoi.
Bah, c'est en fait la grande question à laquelle on va essayer de trouver une réponse alors à partir d'octobre, vraiment, là en mars ça commence avec l'Oculus Rift, octobre c'est la PlayStation VR qui arrive, ils disent qu'ils auront 30 titres sur Oculus Rift à la sortie, 50 titres sur PlayStation VR à la fin de l'année, mais à mon sens c'est la question, ça va être, est-ce que c'est juste un effet waouh? Ou est-ce que il y a en plus une vraie utilisation? Parce que il y a certains trucs qui ont été montrés comme une expérience Star Wars sur le PlayStation VR, Star Wars Battlefront, qui est un jeu. Je pense que le fait de rentrer dans ce type d'univers, ça va tout de suite faire l'effet waouh. Et il y a plein de gens qui vont être... Disons que je peux vous reposer la question. Quand vous avez regardé un film en 3D pour la première fois, c'était sympa, mais ça n'a pas eu un impact sur vous, j'imagine. Mais avoir regardé un truc en réalité virtuelle, avoir l'impression d'être dans l'endroit qu'on vous montre, ça fait quand même un plus gros effet que juste le cinéma 3D, non ? Je sais pas, Marie-Amélie, quelle a été ton expérience ? Non, c'est vrai ?
Je suis pas tout à fait d'accord. En fait, les premiers films 3D que j'ai vus, bah, je crois que c'est à peu près comme tout le monde, le premier, c'était Avatar.
Ouais.
Et en fait, la narration de Avatar a été pensée pour la 3D. Et ça change beaucoup de choses, en fait. Et après, les autres que j'ai pu voir, c'était des trucs type Alice au Pays des Merveilles de Burton, qui a été mis en 3D a posteriori et qui, du coup, n'était pas adapté stricto sensu pour la 3D. Et en fait, c'est le problème de tout ce qui est réalité virtuelle. C'est encore faut-il que la narration s'adapte à ça. Et là, ce que j'ai fait comme test, moi, là, ce web-docu sur Philippe K. Dick, fait par Arte, c'était sympa, mais on n'est pas encore là, quoi. Les visages étaient flous. Alors, tout le dispositif avait été construit pour la réalité virtuelle. Donc c'était fait d'un point de vue scénographique et en termes de scénario pour cette réalité virtuelle là. Mais n'empêche que moi j'ai trouvé ça techniquement pénible parce que voilà, on voit la résolution de l'écran. C'est même pas tant une histoire d'image par seconde. C'est juste que l'écran n'est pas assez bon techniquement pour passer outre. Les visages sont flous. Le rendu des proportions est très étrange. Parce qu'on est censé se placer à la hauteur d'un homme, sauf que du coup, on a des personnes soit très très grandes, soit très petites. C'est très très étrange en fait. Donc voilà, ouais. Je sais pas.
Du coup, quand tu regardes vers le bas, tu vois les jambes qui descendent à n'en plus finir avec cette perspective étrange. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, la grande question, c'est sur la 3D, au final, il y a très peu de films qui ont été conçus pour la 3D. Et c'est quand ça. C'était conçu pour la 3D, c'était souvent des documentaires ou des trucs qui se focalisaient tellement là-dessus qu'au final, la valeur qu'on pouvait trouver, la valeur narrative qu'on pouvait trouver ailleurs, n'y était plus. C'est un petit peu mon impression.
C'est exactement ça. Et c'est la raison pour laquelle quasiment tout le monde est équipé de télé 3D sans même le savoir. C'est parce que ça a été à l'occasion de Coupe du Monde où on a dit il y a l'impression d'être sur le terrain quand vous regardez un match de foot, sauf qu'en fait bah, les gens soit l'ont pas mis, soit s'équiper de lunettes c'était pénible. Et en fait c'est ça, au bout d'un moment, c'est est-ce que le médium, en l'occurrence le casque, vaut le coup, et est-ce que l'expérience apportée derrière est satisfaisante. Les 30 titres dont tu parlais tout à l'heure, encore faut-il qu'ils aient vraiment été écrits expressément pour la VR.
Dans le jeu vidéo, c'est un peu différent parce que t'as quand même t'es au cœur de l'action, donc je pense que les jeux se prêtent peut-être plus que le film, que le cinéma, à la 3D. Mais bon, voilà. Est-ce que ça mérite à la VR? Oui.
Mais ouais. Comme PlayStation, si j'ai bien compris, PlayStation, de toute façon, se proposait comme un espèce de media center global. C'est aussi la porte ouverte vers des films, non?
Bah, en partie, oui. Ils ont d'ailleurs notamment... à mon avis, ça sera l'étape 2. Il est certain que la deuxième étape va commencer à essayer d'aller plus loin que le jeu vidéo. Mais au début,
ils ont annoncé que tous les jeux et tous les contenus seraient accessibles via donc le casque, que tu pourrais en fait mettre le casque et voir comme un énorme écran de cinéma devant toi. Donc tu pourras
Ce qui pour moi est complètement anecdotique. Là, on est effectivement dans c'est l'équivalent de la 3D rajoutée après coup, quoi. Ça, c'est vraiment, enfin, quel intérêt
c'est
de mettre le casque
pour vendre,
oui, c'est pour dire on peut le faire, donc on va le faire. Ok, super. Mais là où ça sera vraiment intéressant, c'est les trucs qui seront, bah, comme le disait Marie-Amélie, est-ce que ça va être vraiment conçu pour la réalité virtuelle dès le départ? Et bien sûr, ils vont essayer, mais à mon avis, c'est pour ça que c'est ce que je dis depuis le début de cette histoire de réalité virtuelle. On sait pas si ça va pouvoir donner quelque chose. Pour la 3D, au final, le coût, entre guillemets, était trop élevé. Et quand on parle de coût, c'est pas juste le coût de production, mais le simple fait de devoir se mettre sur le canapé avec les lunettes, ça, c'est un coût. Pour notre confort. Et ce coût, ce simple coût de devoir mettre ces petites lunettes légères était trop élevé pour s'emmerder avec la 3D parce que l'apport n'était pas assez important. La grande question avec ces gros casques de réalité virtuelle, ça va être est-ce que l'apport en jeu dans un premier temps va être conséquent? Et malheureusement, la réponse, c'est même pas que nous on l'a pas encore parce qu'on l'a pas essayé. Je pense que les développeurs eux-mêmes ne l'ont pas encore parce que ça prend du temps. Il va falloir 1 an, 2 ans d'essai pour voir si ça va être sympa au-delà de quelques jeux où on est dans un cockpit et on peut observer l'espace autour de nous, donc c'est incroyable. Mais même cela, est-ce que ça va pas être pénible au bout de 2 heures, quoi? Donc même pas au bout de 10 minutes. Donc,
pénible, et puis réécrire, revoir de A à Z tout ce qui ressemble de près ou de loin à une scénographie, à un level design, à ce genre de choses. Et puis en plus, le côté un peu familial est complètement déjà perturbé par les lunettes 3D, mais totalement mis en l'air par ce qui est VR. Parce que vous rappelez de cette image de Zuckerberg avec tous ces gens qui portent ces casques, c'est flippant quand même.
Non, c'est sûr.
Côté convivialité, c'est sûr que t'as fait mieux, quoi.
À moins que, on est pour le coup, c'est un petit peu comme l'idée de se dire, c'est bon, on est un petit peu des vieux cons en disant ça, mais quand on dit ah oui, aujourd'hui on passe notre temps sur Twitter et dans les chatrooms ou dans le Slack ou dans des trucs comme ça et on se parle pas vraiment dans la vraie vie. Bah bien sûr qu'on se parle aussi dans la vraie vie, c'est un truc en plus quoi. On se retrouve quand même au café pour boire des coups, mais on a en plus cet autre type de communication. Est-ce que ce type d'expérience ne va pas nous permettre de nous retrouver autrement pour d'autres occasions virtuellement pour regarder tous ensemble une conférence de Mark Zuckerberg par exemple? Alors qu'on n'est pas tous au même endroit, c'est sûr que ce genre de choses va arriver aussi. À savoir
mais
si
mais
ça
autant
va...
pour les personnes qui sont dans la même pièce, du coup, ça va.
Oui, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que peut-être que quand on sera dans la même pièce, ben on regardera tous notre télé, on n'aura pas besoin des casques de VR. Mais au lieu d'être moi tout seul devant mon ordinateur, est-ce que ça serait pas intéressant de, je sais pas, hein, peut-être que non. Mais est-ce que ça serait pas intéressant de mettre mon casque de réalité virtuelle sur les yeux et de me tourner et de voir mon pote Jérôme Kainborg d'un côté, mon pote Cédric Bonnet de l'autre, quand je tourne la tête et de pouvoir leur faire des grimaces ou je sais pas, tu vois ce genre de truc.
Tu vas loin quand même dans ta réflexion.
Ouais, un petit peu loin, un petit peu loin.
Voir Jérôme voir Philippe, quand on est en train de jouer. C'est un peu chaud. Quoi.
Alors, cela dit, la visio pour les téléphones, à part Skype, ça n'a pas non plus super bien marché parce que les gens n'avaient pas forcément envie de débarquer en pyjama ou en slip ou pire. C'est ça aussi.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, la VR, c'est une solution parfaite. Tu peux choisir ton habillement virtuel parce que tu as un avatar en 3D, donc tu peux choisir d'apparaître comme tu veux.
Ça peut être pire. Hein.
Ça peut être pire, c'est pas faux, c'est pas faux.
Bon, il y a aussi tout le côté professionnel dont on n'a pas parlé. Pour les, ça se pose pas trop pour le casque de la PlayStation, mais par contre pour l'Oculus Rift et tout, on en parle beaucoup aussi pour les architectes, pour pas mal de professions qui ont un véritable intérêt à se retrouver dans un environnement recréé en 3D autour d'eux. Et
ça, je crois que effectivement, il y a peu de doute que ça va être utile pour certaines personnes. C'est sûr, mais c'est vraiment pour le grand public que la question se pose, quoi. Oui, c'est ça. Bien sûr, on parle des architectes, on parle des agences immobilières par exemple ou ce genre de choses. Effectivement, là ça peut beaucoup servir, mais moi je veux y croire, mais en conclusion, je dirais on a eu ce travail aussi quand on a fait on est passé à la 3D dans les jeux vidéo et je l'évoque souvent, mais il y a eu 2 ou 3 ans ou même plus 4 ans où les développeurs ont cherché tout bêtement, hein, comment se plaçait la caméra, comment il fallait placer la caméra pour que ça soit pas désagréable, que ça soit facile à suivre, que l'action, que la narration convienne. Et au bout d'un moment, on a fini par trouver. Moi, je crois que si c'est bien fait, la réalité virtuelle peut provoquer un changement dans la manière dont on expérimente l'image suffisamment important pour que on s'inflige le casque sur la tête. Et en plus, à terme, avec des versions 2, génération 2, génération 3 de ces casques, ils seront plus légers, plus meilleure résolution, etc. Et ça améliorera encore le truc. Moi, je suis plutôt positif sur le sujet, mais bon. L'avenir nous le dira.
Voilà. Je sais pas, moi, je pense que ça va être dur quand même. On verra ouais. Effectivement, mais je pense que ça va être très dur à faire passer.
Donc quand toi, tu vas pas. Résolu aussi, pardon, le problème pour les gens qui ont des lunettes. Parce
c'est
que
vrai.
La 3D, c'était pénible et les casques de VR, c'est pire.
Ouais, ouais. Il faut avoir les yeux collés au truc. C'est vrai que c'est pas très pratique, ouais. Toi, Marie-Amélie, j'imagine que tu vas pas acheter ce genre de truc. Captain, tu vas investir?
Bah, tu sais, avec tout l'argent qu'on pique aux auditeurs, c'est possible, effectivement.
D'accord,
très
bien. D'accord, ouais, voilà. Soutenez le Captain Web pour qu'il puisse se payer un casque de réalité virtuelle.
Et des pizzas, c'est important.
Et des pizzas. Un petit mot quand même pour signaler sur le Reddit, il y a Emric R qui nous a mentionné aussi l'annonce d'AMD qui dévoile en fait un casque de réalité virtuelle. Il y en a 10, 13 à la douzaine qui sortent en ce moment. Celui-là est intéressant, c'est le Solon Q parce que c'est vraiment un casque tout en un. En fait, vous avez Windows 10, un ordinateur et Windows 10 installés sur le casque entièrement. Alors, on disait que les autres étaient un petit peu encombrants. J'imagine que celui-là, ça va être 3 fois pire. Mais bon, on n'a pas encore de prix. Il sort au printemps.
Faut faire de la musculation avant de le mettre, quoi.
C'est ça, ouais, exactement. Vous savez, imaginez en fait votre tour, votre PC posé sur votre tête avec des câbles qui vont vers le casque. Bah, c'est ça. Non, je plaisante, bien sûr.
Le futur. Mais,
Bon, on enchaîne avec Android N, la prochaine version d'Android. Il s'est passé un truc assez surprenant. C'est il y a une semaine environ, c'est que Google a carrément mis à disposition une version développeur de Android N, comme ça, tout à coup, sans prévenir. C'est une version preview qui a été mise à disposition comme ça. Et c'est assez étonnant. On ne sait pas très bien pourquoi ils ont fait ça avant de présenter le nouvel OS dans une conférence comme on aurait l'habitude de le voir. Mais bon, elle est là, c'est Android N. Et les deux éléments essentiels de cette version, c'est un écran divisé, un écran splitté pour du vrai multitâche et un système de notification qui est mieux pensé, plus compact par moment, avec plusieurs pages, etc., qui est vraiment mieux foutu. Mais toi, tu es plutôt Android. Bon, Marie-Amélie et moi, on est très iOS. Toi, t'es très Android, Captain. Oui, ça fait. Te parle, cette nouvelle version ?
Bah, écoute, j'en sais rien. Faut que je la voie. Le multi-screen, enfin, la séparation...
Multitâche, split-screen, ouais.
La séparation de l'écran en deux, je n'en vois pas trop l'utilité, honnêtement. Mais bon, souvent, quand il y a de nouvelles versions d'Android qui sortent, je pleure parce que je perds mes habitudes. Et au final, au bout de deux semaines, tu t'y fais et tu te dis « Ah oui, finalement, c'était mieux. » Donc, écoute, c'est à voir. Je suis curieux de voir surtout les nouvelles notifications, parce que pour l'instant... celles telles qu'elles sont actuellement, elles me vont très bien. Donc, mais pourquoi pas, il y a de la place à... Du moment que c'est pas comme l'horrible système de Facebook avec les bulles
qui viennent t'envahir ton écran.
Ouais, voilà, ouais.
Bah en fait, le système de notification est pas mal foutu. Il est, comme je le disais, un petit peu plus compact. Par exemple, vous allez avoir la possibilité de naviguer. Enfin, il y a à la fois les notifications et l'écran de configuration qui sont sur le même écran, que vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre facilement. Il y a le système de split screen qui est implémenté au niveau du système, au niveau de l'OS. Donc, ça va vous permettre vraiment d'avoir n'importe quelles applications, deux applications en même temps à l'écran. Quand on a un écran super grand avec un gros téléphone, ça peut être pratique, d'autant plus qu'il y a une option pour changer la résolution de l'écran, c'est-à-dire qu'on va changer le nombre de DPI sur l'écran. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, vous allez avoir plus de place à l'écran. Vous mettez, c'est comme si sur votre PC, vous pouviez décider, je vais augmenter la résolution de l'écran. Sur votre PC, c'est très possible. Et donc, vous pouvez avoir, pardon?
Pour vérifier si t'as une bonne vue.
Et surtout, en fait, ce qui est très intelligent, c'est que même si le développeur n'a pas prévu que son application devrait s'agencer différemment pour s'adapter à un écran plus grand ou à votre écran spécifiquement, et ben là, vous allez pouvoir décider que la résolution sera plus élevée et donc les éléments d'interface seront plus petits. Et du coup, non seulement vous pourrez afficher plus sur le même écran, ce qui peut être pratique si vous avez un gros écran, mais en plus, ça permet d'avoir les deux applications en même temps à l'écran avec plus d'espace. Tu vois, là pour le coup, dans l'écosystème Android qui est quand même très vaste avec plein de types de machines différentes, ça peut être pratique si tu veux avoir deux applications en même temps qui vont être affichées sans que les développeurs n'aient eu à implémenter le changement eux-mêmes.
Ça me semble plus intéressant sur tablette que sur téléphone portable. Mais bon, je demande à voir, quoi, vraiment, au niveau de l'utilisation.
Bah, sur téléphone portable immense de 6 pouces, comme on en a beaucoup sur Android, peut-être.
Ouais, j'en ai pas. J'aime pas. Je suis vraiment plutôt sur les petits écrans. Je suis resté sur je dois avoir un 4 pouces, je crois.
Donc, d'accord.
4,5, mais...
Bon, et contrairement ah oui, non, mais 4,5 pouces, c'est minuscule, mon pauvre.
Je sais même plus. Non, je dis peut-être des conneries parce que je ne sais même pas quelle taille il fait.
D'accord.
J'ai un OnePlus dernièrement, donc il doit être peut-être un peu plus grand que ça.
Oui, je pense. Parce
que c'est pas un énorme comme Galaxy Note qui
a
besoin des deux mains pour le studio, quoi.
Le 4 pouces, c'est la taille des vieux iPhone 5. Donc,
Ah ouais, non, il doit être peut-être effectivement.
C'est l'iPhone 4, 4 pouces, hein.
Non, l'iPhone 4, c'est 3,5. Rendez-vous compte, c'était encore plus petit. C'est l'iPhone 5, 4 pouces. iPhone 5, 5S, c'est 4 pouces.
C'est vraiment minuscule.
Ah oui, non, mais c'est dingue. Et moi, je faisais partie des gens qui disaient « Ah ben non, mais 4 pouces, c'est très bien déjà. Pourquoi avoir besoin de plus ?» Tu parles.
Ouais, mais encore que c'est moi, je trouve que c'est assez agréable d'avoir un téléphone qui reste plutôt petit, mais bon.
Oui, moi j'ai quand même un iPhone 6 normal, pas un 6 Plus, donc je reste raisonnable, on va dire. Je suis à 4,5,3, je sais plus. 4,7, quelque chose comme ça.
4,7.
Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, j'ai pas un énorme succès avec mon Android N. parlons plutôt alors de ah oui, entre parenthèses, le Pixel C, la tablette est moins chère pour fêter la sortie d'Android N peut-être. Donc si vous regardiez le Pixel C, bah il est disponible pour seulement, enfin aux États-Unis en tout cas, je sais pas si c'est le cas en France, mais il est à $349 au lieu de 500. J'imagine qu'il a baissé chez nous aussi. Voilà, le Pixel C, si vous le ziotiez, eh ben, il est un petit peu moins cher. C'est une belle baisse de prix quand même. Parlons donc plutôt du Show Hello de 2016. Vous le savez, le Show Hello, c'est la présentation d'Orange qui vient nous présenter ses nouveautés. Et il y a eu une belle présentation. Ils en font depuis, je crois, 2012, chaque année, un petit Show Hello comme ça. Stéphane Richard, là, est venu nous présenter les nouveautés d'Orange. Alors, on va évoquer quand même un petit peu les nouveautés d'Orange elles-mêmes, mais... ils ont surtout parlé de Livebox, de la nouvelle Livebox et de leur réseau de Internet of Things qui est mis en place avec les lampes LoRa. Mais moi, je voudrais aussi évoquer la conférence elle-même parce que je l'ai suivie en direct. Hein, je fais des sacrifices immenses pour les auditeurs du Rendez-vous Tech et c'était effectivement une épreuve quand même, un petit peu douloureuse. Je vous avoue que j'ai été assez déçu de cette présentation que j'ai trouvée, au-delà du contenu qui était bon, ok, c'est les nouveaux produits d'Orange, ça change pas la face du monde, il y a des petits trucs sympas, mais j'ai trouvé ça... comment le décrire? Bah, comme on disait en début d'émission, sinistre. En fait, tu l'as regardé, Captain, parce que
non,
tu l'as décrit
tout,
bien,
non,
non? C'est, en fait, il y avait une sorte de corporatisme terrible. J'avais l'impression qu'en fait, que la conférence avait été écrite par un comité où il y avait une sorte de règne des mots de buzz et des mots super corporate marketing, quoi. Et il fallait faire plaisir à tous les gens qui étaient présents dans le comité, qui étaient en train d'écrire le truc, à tel point que ils ont même fait il y avait un moment le moment qui m'a le plus gêné, c'était le moment où ils ont fait une présentation en réalité virtuelle, je l'évoquais tout à l'heure, en réalité virtuelle où il y avait Luc Besson qui était présent dans une pièce à côté et ils lui ont fait, entre guillemets, explorer l'intérieur de la nouvelle Livebox en réalité virtuelle avec un casque HTC Vive sur les yeux. Et ils lui ont fait explorer donc une bien sûr version complètement fantasmée de l'intérieur de la nouvelle Livebox avec des lumières, des processeurs, des petites cartes de circuit imprimées et puis du contenu qui vole partout machin. Et c'était tellement, on dit en anglais, c'est awkward, c'est juste bizarre, c'est cringe worthy, c'est ça vous donne envie de, vous savez,
c'est dérangeant.
Ouais, ça vous gêne quoi, vous êtes gêné pour eux. C'était terrible, mais terrible, avec Luc Besson qui disait alors il y avait Stéphane Richard qui expliquait, ah oui, non mais là tu es dans l'intérieur de la Livebox, ah là tu vois le Wi-Fi, il était obligé de lui expliquer parce qu'on comprenait rien, il y avait des lumières, des machins qui volaient partout, et Luc Besson qui fait, ah ouais, le Wi-Fi il est puissant comment le Wi-Fi, et Stéphane Richard qui dit il est super puissant, vraiment super puissant. Ah oh, là, c'était horrible.
Je suis en train de regarder sur Dailymotion vite fait les images, mais je vois que ça devait être Stéphane Richard sur scène pour l'instant. J'ai pas encore.
Oui,
le
c'est
bon.
Ça. Non, bah c'est vers la fin. C'est vers la fin le passage avec Luc Besson qui. Alors, ce que j'ai noté finalement, c'est que c'était une présentation où on voit qu'ils ont essayé de faire d'une présentation à l'américaine, comme on les voit avec toutes les grandes sociétés de la tech comme Apple, Google, enfin même Amazon en a fait de temps en temps avec Jeff Bezos. Il y en a plein qui font des trucs comme ça. Et bien sûr, c'est toujours corporate, c'est toujours marketing. Mais là, on sentait le poids de la grosse société française, quoi. Ils ont pas réussi à s'en détacher comme les autres sociétés, les sociétés américaines réussissent, ou même avec Free, Xavier Niel réussit à faire authentique.
Bah Orange, on est et très là, loin de la start-up quand même.
Bah,
vraiment,
non, mais bien sûr.
Ouais, l'opposé de tout ce qu'il peut.
Apple et Google, on n'est pas tout à fait dans la start-up non plus, même s'ils sont dans cet environnement, c'est sûr. Mais, je sais pas, moi, ça m'a... c'était dur, quoi.
Et moi, j'ai pas pu aller à celui-là, malheureusement, mais j'étais à celui de l'an dernier. Et en fait, effectivement, pour rejoindre ce que tu dis, il y a peut-être cette dose d'humour qu'on n'a pas en France. Parce que c'est quand même un exercice qui n'est pas du tout pour lequel nous, les Français, on n'est pas du tout familiarisés. Alors, il essaye. D'un point de vue média training, Stéphane Richard, il parle très bien, il présente bien et tout. Mais il a, en tout cas, l'an dernier, c'était ça. Et là, j'ai l'impression, vu ce qu'ils ont présenté, que c'était aussi chargé que l'an dernier. L'an dernier, il a présenté quasiment 25 produits à la suite. Donc, faut les organiser, hein. Et le côté un peu catalogue à la Prévert dont tu parlais concernant les buzzwords, bah, c'était pareil. Et donc, il faut faire rentrer des ronds dans des carrés et il faut qu'il sorte tous les trucs qu'il a à dire avec, mais sans cette partie humour, c'est pas drôle.
Ouais.
Et donc, c'est pas léger, en fait.
C'est exactement ça, t'as tout à fait raison. En fait, ça manque beaucoup de recul. On a l'impression qu'ils n'ont aucun recul sur ce qu'ils sont en train de faire. Stéphane Richard, mine de rien, bah c'est comme pour ces sociétés américaines dont on parle, mais c'est un PDG, le type, c'est pas son boulot d'être présentateur non plus. Donc ce qui lui, je l'ai trouvé pas mal. C'est ça. Oui, non, mais il était pas mal du tout. Il y avait différents invités qui étaient sur scène qui étaient franchement, ils auraient peut-être dû prendre des gens qui réussissaient un petit peu mieux à parler en public, parce que là c'était hyper figé, mais lui était pas mal. Mais bon, effectivement, je crois que t'as mis le doigt dessus, hein, Marie-Amélie, c'est ça manque d'humour, ça manque de recul, quoi. On a l'impression de pas être à l'aise, et j'ai pas compris à qui ils s'adressaient, parce que ils utilisaient des buzzwords et des concepts genre avec la VR dans notre livebox qui est prête pour la VR, vous allez pouvoir explorer la... Ah non, alors il y avait des trucs, voilà, on va arriver dans les termes, la livebox est 100% fibre. Qu'est-ce que ça veut dire 100% fibre? Ça veut rien dire, ça veut rien dire du tout. Il y a du super wifi. Bon, ok, d'accord, à la limite, pourquoi pas, super wifi, on peut comprendre. Bref, bon, passons sur cette critique de la présentation elle-même.
Bah, c'est pas une conférence de développeurs, c'est une conférence pour les journalistes.
Voilà. Mais tu sais quoi, c'est une conférence pour des journalistes tech qui devraient être capables, eux, de comprendre ce qu'on leur dit quand on leur parle d'un point de vue un petit peu tech et de le traduire pour le grand public. Là, j'ai trouvé qu'ils étaient en fait à cheval entre les deux. Mmh. C'était une conférence qui était écrite pour le grand public, mais à laquelle il n'y avait que des gens, journalistes tech finalement. Ou peut-être pas, peut-être qu'il y avait des journalistes...
Non, en fait, je te dis moi-même, j'y étais pas cette année, mais en tout cas, par rapport à l'an dernier, il y avait un peu tout le monde. En fait, ils invitent d'une manière générale tout l'écosystème, enfin tout l'écosystème non, mais ils invitent un grand nombre de personnes qui font l'écosystème parisien, donc déjà c'est très parisien. J'imagine qu'il doit y avoir aussi des journalistes d'ailleurs que Paris, évidemment, mais ça va être des journalistes, des blogueurs, des gens du social media, du marketing, de la com, et donc tout ça, c'est très très difficile de trouver le bon message que tout le monde comprend, et bah du coup on arrive sur une espèce de synthèse étrange qui du coup peut ne pas convenir ni aux uns ni aux autres, en fait.
Ouais. Ça semble très éloigné de l'image de marque d'Orange, en fait. On dirait qu'il faut une keynote parce qu'il faut la faire, parce que Free en fait une et qu'au final ils se voilà.
Ça fait
ils
de la pub,
font,
quoi. Mais...
Ils le font sans avoir vraiment envie de le faire, quoi. Je sais pas.
Peut-être, c'est possible, ouais.
Non,
c'est
peut-être j'ai vu le effectivement le passage avec Luc Besson, même sans le son, ça semble très gênant. Ouais.
Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont présenté tout de même? On va en parler. Une nouvelle Livebox qui a l'air, bon, très bien, qui est en deux parties comme toujours. 100% fibre, comme il le disait, avec du super Wi-Fi. Ce que ça veut dire, bah, c'est qu'elle est, bah, je sais pas, elle prend la fibre, ok, super. Et elle a du Wi-Fi AC qui combine les différents réseaux. Elle a 2x4 antennes, je crois, ou un truc du genre. Enfin, elle combine les différentes bandes pour avoir un Wi-Fi encore plus rapide. Très bien. Il vous livre avec, alors ça j'ai pas très bien compris, mais c'est une Airbox qui est un routeur 4G, et du coup vous pouvez vous connecter avec les mêmes identifiants, soit à votre Livebox, soit à votre Airbox, et votre Airbox, qui est donc votre routeur 4G, vous pouvez le trimballer avec vous si vous partez en vacances ou je sais pas quoi. Ok, bon, ça peut être pratique dans certains cas précis. Par contre, je me demande si vous avez le Wi-Fi de la Airbox et le Wi-Fi de la Livebox, est-ce que ça fonctionne ensemble de manière à ce que vous n'ayez pas le passage de l'un à l'autre de manière intempestive sur vos réseaux, sur votre ordinateur, je sais pas. Y a un boîtier TV qui fait la 4K. Donc la 4K arrive également, et ils ont un assistant virtuel dans le boîtier TV, ce qui est un petit peu, je me demande pourquoi il faut que en même temps, bon, c'est un petit peu comme toutes les set-top box, ils ont un assistant virtuel comme Apple, comme Google, comme Amazon, tout ça.
Comme Office, le trombone d'Office.
Comme le trombone d'Office, voilà, c'est ça. À partir du moment où tu fais une set-top box, je comprends, tu vas vouloir avoir pouvoir parler à ta box TV parce que taper les recherches, c'est super pénible avec un petit clavier, donc ok, c'est pour ça qu'ils le font. Et il y aura de la réalité virtuelle sur l'application OCS qui sera sur le Samsung Galaxy Gear et sur le PlayStation VR très bientôt, enfin très bientôt cette année, sur le Samsung Galaxy Gear, ça arrive là dans les mois à venir. Donc ok, de la réalité virtuelle encore. Et enfin... l'aura, le réseau de l'internet des objets, qui est en fait mis en place avec des lampes, les lampes l'aura, et ça, j'ai trouvé ça assez malin de leur part, malin, un petit peu arnaque en même temps, parce qu'ils disent c'est un réseau collaboratif. On va vous inviter, vous tous, à acheter des lampes et à les mettre un petit peu partout chez vous. Et donc, tous ensemble, on va construire le réseau. Réseau dont, bien sûr, bénéficiera Orange pour son réseau d'Internet des objets. C'est un petit peu un coup bizarre de vous dire vous allez nous construire notre réseau. Mais, quoi. Mais,
en payant.
En payant. Alors, je crois bien que les lampes LoRa sont pas gratuites. Hein, donc, les
premières Free seront... Wi-Fi a fait pareil, hein, si je peux me permettre.
Bien sûr. Free, tout à fait. Non, mais t'as raison. Sauf que Free, c'était
ça
inclus.
Ça fait partie de la box directement.
C'est ça. Voilà. C'était inclus dans ta box. Donc, tu le donnais. Tu donnais une partie de ta bande passante à tous les autres abonnés Free. Là, effectivement, c'était collaboratif. Mais on te demande pas de payer en plus. Je crois qu'on n'a pas encore les détails sur cette histoire de LoRa. Ils vont donner 5000 lampes à leurs employés pour qu'ils les mettent chez eux. Et après, alors si c'est gratuit, pourquoi pas? Mais bon, enfin, de toute façon, le problème que je vois là, c'est
la lampe a pas l'air discrète quand même.
Ouais, mais elle est pas moche. Ce qui est quand même pas mal. Bon, ensuite, l'internet des objets, c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils sont quand même en train de prendre un temps d'avance sur ce réseau très basse consommation pour l'internet des objets. C'est un standard. J'espère qu'il n'y en aura pas un autre qui va dans 2-3 ans venir le remplacer, celui-là. Mais en même temps, ça c'est une bonne initiative d'Orange. On sait que malgré tout ce que j'aime bien me moquer de notre opérateur historique, mais c'est vrai qu'ils ont quand même généralement été assez innovants. On se moque du Minitel, du Bebop, de tout ça, mais c'était quand même des trucs qui ont poussé la technologie en France. Et là encore, ça marchera pas forcément à tous les coups et ça restera pas à tous les coups, mais ils sont en train de le développer. Il y a plusieurs régions qui sont dans la zone de test. Si vous êtes intéressé par l'internet des objets, allez regarder du côté de LoRa. Et enfin, c'était dans une interview à part où ils ont annoncé que Apple va enfin ouvrir l'iPhone au paiement Orange Cash, sauf que ça sera pas avec le NFC. Donc il faudra rentrer le code sur Orange Cash au lieu ils pourront pas a priori encore utiliser le NFC. Peut-être qu'à terme, avec une nouvelle version de l'OS, le NFC, c'est un indice qui nous dit que peut-être que ça s'ouvrira aux autres développeurs aussi. Bon, j'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a une chose qui vous intéresse dans cette nouvelle Livebox de luxe avec son Airbox, son super Wi-Fi et sa télé, son boîtier TV sans fil 4K? Oui.
Est-ce qu'elle marchera? Parce que moi, toutes les Livebox que j'ai eues, il n'y en a aucune que j'ai réussi à faire marcher correctement. Parce que c'est toujours un enfer.
C'est vrai.
Pour Internet, ça marche. Mais alors après, pour par exemple l'interface télé, c'est juste à se tirer une balle dans la tête, quoi. Je sais pas.
Ouais, bah écoute, ouais. Moi chez mes parents ça marche. C'est pas incroyable, mais ça marche. Et puis là, ça marche sans fil en plus. Donc bon, en même temps, ils ont pas de télé 4K, donc ils s'en foutent. Mais
oui, voilà, ouais, il y a aussi l'histoire de la 4K. Mais ça fait un peu gadget. C'est comme effectivement comme la 3D dans les films, etc. La 4K, je crois qu'on n'est pas prêt de l'utiliser, ne serait-ce que parce qu'on manque de contenu, toujours.
Je dirais que la 4K, la différence, c'est que ça arrive. Et ça va arriver, c'est sûr que ça va arriver. Tu vois, c'est pas un truc qui va... les télés, petit à petit, vont toutes devenir 4K. Et donc, le contenu va arriver aussi. C'est pas comme la réalité virtuelle ou la 3D même, où le contenu, on n'est pas sûr qu'il va arriver. Donc, je sais pas, moi, la 4K, ça me parle un peu plus, en tout cas.
Et la 4K, ça va arriver avec le sport.
Parce aussi, ouais.
Un match de foot, on voit les brins d'herbe qui volent. Un truc de natation, on a l'impression de se prendre des gouttes d'eau. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Hein.
Bah, c'était, à vrai dire, c'était comme ça que la HD avait été vendue au tout début. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était par le sport que c'était passé. Et c'est souvent par le sport que passent ces innovations technologiques. On dit toujours les innovations technologiques, ça c'est établi par le sport ou le porno.
Voilà, ouais, je pense que.
Ouais, et
bah,
d'ailleurs.
Pour la réalité virtuelle, on sait lequel, et puis bah pour la vidéo, on sait quel autre. Voilà.
On aurait dû inviter Quaco, qui allait chez Dorcel pour tester les lunettes 3D.
Oui, bah écoute, on référera les auditeurs à l'apéro du Capitaine pour avoir le rapport.
Le test complet.
Le test complet, voilà, ouais. Bon, ok, donc voilà pour ce petit topo. C'était plus effectivement la présentation que les produits eux-mêmes qui m'avaient marqué, mais je serais curieux d'entendre vos impressions, chers auditeurs, sur le show Hello de 2016. Vous pouvez venir nous donner vos impressions en commentaire sur le blog frenchspin.fr.
Enfin, quoi qu'il en soit, pour revenir une dernière fois sur cette histoire du show, c'est quand même un exercice qui est loin d'être facile. Et il faut dire ce qui est, que ça soit Niel ou Richard, ils le font à l'américaine, certes, mais ils se mettent quand même vachement en danger. C'est beaucoup plus simple de rester dans son coin et d'envoyer un communiqué de presse et puis c'est tout. Il y a quand même ce truc de on y va, quoi. Et on se présente en tant que boss et on présente ce qu'a fait son groupe. On peut aimer, on peut pas aimer, on peut trouver ça étrange ou pas. Il y a quand même cette prise de risque qui est à saluer quelque part quand même, je trouve.
Bah, écoute, je suis vraiment content que tu sois là pour le dire parce que c'est vrai que j'aime avoir des opinions différentes en fonction, enfin, dans les émissions. Et c'est très facile d'être derrière mon petit micro à l'aise dans mon salon et de dire ah c'est vraiment trop de buzzword, trop de machin. T'as tout à fait raison, ouais, c'est pas un exercice facile du tout. Et effectivement, au moins il y va, quoi. Stéphane Richard, bon, c'est ça, ne serait-ce que l'intention est déjà louable. Donc merci de défendre l'honneur d'Orange. Enfin, avant de passer à nos parties news et rumeurs, la conférence d'Apple de ce soir, dans quelques heures à peine, elle va commencer et on a déjà à peu près toutes les informations, donc on va faire un petit bingo. C'est comme toujours, c'est Mark Gurman de 9to5Mac qui a ses entrées chez Apple et qui a à peu près toutes les infos. Alors, qu'est-ce qu'on attend à cette conférence? On attend un nouvel iPhone 4 pouces qui s'appellerait l'iPhone SE, qui ressemble à un iPhone 5S arrondi et qui viendrait le remplacer dans la gamme d'Apple. Il y a un iPad Pro mini, donc un iPad Pro de la taille de l'iPad Air, de l'iPad classique en fait, qui pourrait être utilisé avec le stylet et qui aurait également un petit connecteur smart machin qui permet d'utiliser le clavier comme l'iPad Air, l'iPad Pro le plus grand, l'iPad Pro 13 pouces, et qui aurait plus de haut-parleurs, etc. Des nouveaux modèles d'Apple Watch, mais pas de modèles en fait qui soient de meilleure performance, qui seraient uniquement donc des nouveaux modèles différents. Pardon ?
Avec plus de diamants et de l'or plaqué
or. Voilà, c'est ça. Avec des diamants plaqués or. Et voilà, peut-être, mais on n'en a pas entendu parler depuis un moment, une présentation du nouvel OS pour Mac qui inclurait Siri. Donc Siri qui serait enfin disponible sur Mac avec ce nouvel OS. Mais c'est pas certain. Ça sera peut-être pour la WWDC en juin. Et voilà, et c'est à peu près tout. Donc c'est pas une conférence incroyable, hein. D'ailleurs, ils ont pas loué une grande salle pour ça. Là encore, quelque chose qui vous parle dans ces quelques petits produits qui seront sans doute présentés?
Bah écoute, moi franchement, je suis pas trop Apple, donc ces dernières années, j'ai de plus en plus de mal à suivre, parce que autant c'était simple au début, t'avais quelques modèles et il restait sur une gamme qui était très très simple, autant depuis 2-3 ans avec la multiplication des modèles, des produits et tout, je suis un peu complètement largué, donc ouais. Là, j'ai pas grand-chose à dire dessus, je te cache.
D'accord, bah écoute, il y a pas de souci. Toi Marie-Amélie, tu nous disais que t'es complètement Mac, tu vas te précipiter sur le petit iPad Pro, t'as déjà ton Apple Watch que tu utilises depuis un an que tu vas vouloir changer pour en avoir une plus belle ou ça te laisse froid?
Non.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non, non, j'ai eu une montre Hermès tout court et je m'étais dit le jour où Apple fait des Hermès, ça m'intéressera. Bon, alors Apple l'a fait un peu trop vite pour que je m'y fasse. Et non, recharger sa montre tous les soirs, c'est bon, je fais déjà avec tous mes trucs iPhone, iPad et tout, ça suffit. Non, en fait, je m'attendais à rien, à vrai dire, mais peut-être plus à cette histoire de prise jack et de lighting pour.
Ça sera a priori à la rentrée avec les nouveaux modèles d'iPhone. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu de cette histoire de pas de prise casque sur le prochain iPhone. Et ça serait avec le vrai refresh des iPhone 6, donc l'iPhone 7, qui arriverait peut-être étanche et peut-être sans prise casque avec uniquement un port Lightning et peut-être même un smart connector lui aussi. Pour quel type d'accessoire, on sait pas, mais ça viendrait plus tard effectivement. C'est a priori pas cette fois-ci. Donc oui, une conférence somme toute assez mineure.
Ouais, à part une nouvelle version de l'OS qui pourrait avoir effectivement Siri ou... Ouais, non, je sais pas. Ouais.
Il développe encore des Macs, parce que sur le côté informatique, on en entend plus beaucoup parler. Hein.
Bah écoute, oui, c'est un moins gros business que leur mobile, hein, bien sûr, mais ça existe quand même, les Macs. Je peux te l'assurer, moi j'en ai un de cette année qui peut pas faire tourner de jeu, malheureusement, enfin très très mal, ce qui m'énerve au plus haut point, mais ils sont toujours là.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils arrivent plus du tout à garder le secret sur les nouveaux produits. Quoi. Là, c'est vraiment assez flagrant, je trouve.
Bah, à vrai dire, la moitié des fuites viennent spécifiquement de Mark Gurman de 9to5Mac. Il est hyper bien connecté. Et c'est vrai que maintenant, bah, ça fait, je sais pas, 2, 3, 4 conférences où, à chaque fois, bah, elles tombent le soir ou le lendemain de quand on enregistre l'émission. Et parfois, si c'est une grosse conférence, peut-être qu'on peut décaler l'enregistrement de l'émission. Mais là, d'une part, c'est une petite et en plus, même pas besoin parce qu'on sait tout ce qui va venir. Alors peut-être qu'il y aura une grosse surprise, mais bon.
C'est peu probable.
C'est peu probable, ouais. Et mais bon, si jamais vous écoutez cette émission vraiment au moment où elle sort, sachez que on va faire un live avec nos amis de Geek Inc. Pour couvrir la conférence d'Apple. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le live de Geek Inc. pour suivre ça avec nous. Bon, c'est pas tellement pour les annonces, c'est plutôt pour se marrer ensemble, hein, je vous avoue. Donc voilà, sachez-le, on fait ça régulièrement quand il y a des conférences Apple. Écoutez, c'est tout pour nos gros sujets, entre guillemets, hein, pour gros cette fois-ci. On va continuer avec nos news et rumeurs un petit peu plus rapides, mais avant ça, j'aimerais remercier une partie des auditeurs qui choisissent de soutenir financièrement le Rendez-vous Tech sur Patreon, comme vous le savez. Donc un grand merci, un immense merci à Villemagne, David Guillet, Charlie, Rémi Leroy, Dead Obi-Wan, Jean-François Antune, Nico Bogit, Émile Louis, Chris et Dion, Gott, Bastien. Merci à vous tous. J'espère que le...
Je savais pas qu'Émile Louis suivait ton podcast.
Bah écoute, il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle vraiment Émile Louis, donc,
Ouais, peut-être. Ou quelqu'un qui l'a rajouté dans le
c'est
fichier.
C'est possible aussi. Mais en tout cas, je remercie la personne qui a fait ça. J'imagine que c'est pas le Émile Louis auquel tu penses, Captain. Merci en tout cas à, vous tous de soutenir l'émission. On est vraiment en chemin vers le prochain palier. Et entre parenthèses, je suis en train de penser... Alors, on est en train de continuer à progresser. Je me demande si je vais pas faire un truc qui serait pas mal. C'est que arriver à 2350, je vais pas... Parce que vous savez, le prochain palier, c'est pour rémunérer deux des animateurs réguliers de l'émission. Je me demande si à 2350, je vais pas en rémunérer un déjà. Parce qu'en fait, à ce stade à peu près, ça fait à peu près la moitié si on compte le deuxième épisode du mois qui rapporte moins et les taxes et les frais et tout ça. Donc je me dis, bah tant qu'à faire, beaucoup d'entre vous ont déjà contribué et ils ont contribué pour ça. Et comme on est en train de progresser, mais ça prend un petit moment, peut-être que je vais commencer à payer des gens. Donc voilà, continuez en tout cas à contribuer, c'est hyper important pour moi et ça me fait incroyablement plaisir, vous le savez. Donc, vous savez ce qu'il faut faire, c'est patreon.com/rdvtech. Tous les liens sont bien sûr partout dans les notes de l'émission, etc. Et entre parenthèses, si vous avez reçu un mail vous disant que votre moyen de paiement a été rejeté, n'oubliez pas d'aller le mettre à jour ou alors carrément d'annuler votre abonnement. Il n'y a pas de souci si vous voulez plus être abonné, vous partez quand vous voulez. Mais si vous voulez continuer à participer à l'aventure, n'oubliez pas d'aller mettre à jour votre moyen de paiement parce que sinon c'est pas pris en compte et ça complique les calculs. Quoi d'autre? Merci à tous ceux qui sont venus laisser des commentaires et des notes sur iTunes. Merci à Thierry, à Damsense, à Anagram47 et à David de Nevers qui nous disent le top des podcasts techno. Excellent podcast, plaisir bimensuel. Merci. Promesse tenue. Qui, ça, c'est David de Nevers qui nous dit bravo Patrick. Grâce à toi et tes chroniqueurs, j'ai vraiment une revue de la tech avec un rendez-vous jeu en complément. On est vraiment aware, comme dirait Jean-Claude, et ça je pense que c'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Merci à vous tous d'avoir laissé les commentaires sur iTunes ou ailleurs. Le catalogue que vous utilisez pour trouver des podcasts, laissez un petit commentaire ou une note dessus, ça aidera d'autres auditeurs à nous retrouver. Les news et rumeurs, vous avez peut-être vu sur votre web français cette semaine une sorte de campagne de prévention ou de sensibilisation aux bloqueurs de publicité qui a été initiée par le GEST. Alors qu'est-ce que c'est le GEST? C'est le groupement des éditeurs de services en ligne. Et en gros, c'est toutes les publications, toutes les grosses publications en ligne. Ils ont soit bloqué une partie de leur contenu, soit ils ont mis des petites pubs à la place des pubs pour vous dire merci de whitelister, de mettre dans votre liste blanche ce site si vous voulez consulter son contenu si vous utilisez un bloqueur de publicité. On sait qu'il y a à peu près 20 à 25% des internautes qui utilisent des bloqueurs de publicité aujourd'hui. Ce qui m'a frappé dans cette campagne, c'est bon, pourquoi pas sensibiliser, ça me paraît pas être une mauvaise idée. Surtout que, vous le savez, moi j'ai beaucoup été contre les bloqueurs de pub parce que éthiquement ça me pose un problème. Mais en même temps, ce qui m'a frappé, c'est à quel point il semble ne pas y avoir de remise en question de la présentation des causes qui poussent les gens à utiliser des bloqueurs de publicité. Parce que c'est très bien de vouloir éduquer les gens et leur dire « ouais, mettez-nous en whitelist, arrêtez d'utiliser le bloqueur de pub », mais si on ne comprend pas pourquoi ils ont été amenés à prendre cette décision à la base, je crains qu'on aille dans le mur, quoi. Si on ne veut pas revoir un petit peu sa mise en page, essayer de promettre d'avoir moins de trackers et moins de ces outils que le lectorat rejette clairement, je comprends pas pourquoi ils vont changer, même si c'est pas bien. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Enfin, tout le monde a un avis sur les bloqueurs de pub, mais je sais pas si vous avez vu ces campagnes.
Ouais. Ce matin, en connectant sur le site du Monde, j'ai le droit à une page, à un splash screen, effectivement, avec une longue explication de pourquoi il fallait que je désactive Adblock. Écoute, oui, effectivement, tu résumes assez bien. Le vrai problème, c'est que quand tu vois des sites, quand tu désactives Adblock, tu te rends vite compte de la catastrophe, quoi. Il y a des sites où, je dirais 40% de la mise en page, c'est uniquement de la publicité, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que tu fatigues et puis voilà.
Ouais. On a vu beaucoup de gens tweeter aussi le nombre de mouchards qui sont signalés par les adblocks et ça monte dans les dizaines très très vite et du coup c'est assez gênant pour ceux qui veulent utiliser les adblocks. Moi personnellement je n'utilise pas parce que bon j'ai expliqué pourquoi mais je comprends pas pourquoi ceux qui les utilisent déjà. Surtout sur ces sites-là, j'avoue qu'il y a beaucoup dans la presse française de sites qui sont difficiles à regarder. J'ai pas l'impression. Toi, tu viens un petit peu du marketing, Marie-Amélie. C'est un problème qu'il n'y a pas de solution parce que ça met en jeu le business model des éditeurs, mais en même temps, il y a un rejet qui est assez clair et de plus en plus grand des lecteurs.
Le truc, c'est que moi, j'ai bossé plusieurs années dans des boîtes qui font de la monétisation de trafic. Donc, plus tu accèdes à un contenu et plus tu es exposé à de la publicité. Et il y a énormément de sociétés en France qui fonctionnent comme ça. Et à commencer par les éditeurs de presse. Hein, le problème, c'est que si on monétise le contenu, encore faut-il qu'on ait accès à ce contenu. C'est ça le grand souci. C'est qu'à mettre des pubs dans tous les sens à la One Again, j'ai, alors que normalement, en plus, franchement, je fais gaffe, j'ai Spotify, je paye pour la télé, je paye la redevance, je paye le streaming, j'ai une carte UGC limitée. Enfin, moi, dès qu'il y a un contenu pour lequel payer, je paye. Mais j'ai téléchargé un adblock parce que c'est devenu infernal et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse faire la même chose pour le mobile. Parce que les consultations mobiles sont devenues impossibles.
Ah bah tu peux, la dernière version d'iOS te l'autorise, donc
ah
tu
ouais
peux tout de suite.
Ah,
ah ouais,
alors,
ouais,
bah
oui.
Merci, merci beaucoup.
Ouais, ouais, il y a des apps qui en fait s'intègrent à l'OS. Bah tu pourras aller chercher Adblock sur l'App Store. Tu peux déjà le faire depuis des mois. Là, ça fait des mois que tu aurais pu installer ton Adblock.
Là, tout temps perdu. Non, mais en fait, c'est ça, c'est odieux. C'est que oui, je comprends tout à fait que ces gens-là aient besoin de la publicité pour vivre. Et quelque part, c'est parfaitement normal. Pourquoi est-ce qu'on aurait droit et accès à un produit qui est gratuit? Mais après, il ne faut pas non plus prendre les gens pour des cons. Et si on propose quelque chose qui met vraiment à mal la structure éditoriale, la structure en termes de contenu. Et j'imagine les conférences de rédac un peu houleuses entre justement les journalistes et les gars du marketing et du commercial dans ces grands sites de médias qui doivent s'écharper entre eux. Ah ben on vous a rajouté un pop-up. Ah non, pas encore. C'est très possible. Imaginez aussi que les journalistes doivent pas être super contents de voir que leur contenu est caché derrière Dieu sait quelle pub. Ça doit pas être évident.
Oui, c'est certain, oui. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu penses de cette initiative, du geste là, de cette campagne qu'on a vue? Ça te semble, ça te parle? Ça te semble approprié? C'est le seul truc qu'ils puissent faire?
Moi, ça me fait penser à Pascal Nègre à l'époque quand il était chez Universal, qui trouvait que le meilleur moyen avant tout, c'était d'acheter des disques. Voilà. on a un peu l'impression d'un truc, oui, oui, mais on s'en fout. Donc, non, en fait, c'est la cause, c'est la publicité qui a en entraîné un effet, c'est les adblocks. Dire que oui, sans les adblocks, vous allez faire disparaître cette cause du contenu parce que justement les gens n'ont plus les moyens de se financer, bah vous avez qu'à vous adapter aussi aux demandes de vos lecteurs puisque finalement c'est déjà ce que vous êtes censé devoir faire.
C'est marrant, oui. Bah on a la même conclusion finalement. C'est un peu ce que je disais sur à l'instant. Ils ont pas l'air de vouloir s'attaquer à la ou même de comprendre la cause du problème. C'est assez et on a la même impression de tête dans le sable que les éditeurs de disques il y a quelques années quoi.
C'est ça et c'est dommage parce que alors ça aussi dans le genre les promesses un peu merdiques ça devait être le buzzword de 2014 ou 2015, c'était le native advertising.
Oui, bah oui, non mais ça effectivement
et qui pourrait être une réponse à tout ça. Et moi si c'est du native advertising, déjà comme c'est du contenu, mon adblock il va pas le voir, donc je le verrai. Donc ça déjà c'est pas mal, c'est le moyen de contourner ce qui existe déjà. Et ensuite deux, c'est un contenu de qualité qu'on me pousse et donc que je suis plus à même de suivre et qui est plus à même de me transformer en client potentiel de cette information qu'on m'envoie.
À condition que ça soit clairement identifié, on est d'accord.
Bah, y a déjà des sites, hein. Y a le site américain Quartz qui le fait très bien.
Ouais, c'est des contenus vraiment possible, de qualité qui sont en fait payés par un annonceur, mais c'est pas forcément de la pub, c'est du contenu qui est sponsorisé, quoi.
C'est du contenu sponsorisé qui va après tout. Oui, on revoit les modèles publicitaires, mais de toute façon, l'affichage, juste l'affichage, le fait de voir passer quelque chose, ça fait des années que plus personne ne clique dessus.
C'est clair. C'est la plus grande. En fait, c'est vraiment une fumisterie terrible.
Mais oui, mais bien
parce
sûr.
Que ils se font payer pour ça, les annonceurs veulent mettre des pubs comme ça, et pourtant, on sait bien que même quand on les affiche, enfin, moi, ça fait des années que j'ai pas cliqué sur un, ou même regardé une de ces pubs, donc.
Ouais, plus t'es habitué à être sur le net, plus ton cerveau efface automatiquement. Ouais. C'est le meilleur adblock, hein.
Ah, mais c'est.
Regardez Google a viré ses pubs sur la droite.
Ouais.
C'est pas un signe, ça?
Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, pardon, fini.
Non, non, mais c'est tout. C'est, ouais. Il faudrait qu'ils réfléchissent à des nouveaux formats intelligents.
Ouais. Non, effectivement, on a l'impression. Ce qui me terrifie là-dedans. Bon, là, je lis un article d'ailleurs de David Legrand sur Next Impact, qui fait un très bon topo sur tout ça, et il a des images de chacune de ses campagnes. enfin, il y en a certaines qui sont terrifiantes, quoi. Il y a des images où le contenu, il est sur un tout petit morceau de la page. Et il y a un commentaire que j'ai beaucoup aimé qui en fait synthétise assez bien ce qu'on était en train de dire à l'instant. C'est Greg Aussitôt qui a fait ce tweet. Il est CTO chez Slate FR et chez Reader FR, et il dit une conversation entre les médias et le lectorat. Médias, qu'est-ce que vous voulez? Lectorat, moins de pub. Médias, quand? Lectorat, now. Médias, bon bah désactivez Adblock. Et après c'est un petit peu ok, donc effectivement vous avez rien compris. Ok, d'accord. Ouais.
Et puis, je serais franchement à la place d'un annonceur, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est qu'à mettre des pubs n'importe comment, de n'importe quelle manière, on brouille aussi l'image de marque de la personne qui fait la pub. Mmh. Donc, il y a les médias qui essayent de gagner 3 sous et on peut les comprendre, c'est difficile, etc. Mais il y a l'annonceur qui se voit avec un message un peu flingué et qui a l'effet inverse de l'effet escompté. Et ça, en tant qu'annonceur, moi, j'y réfléchirais à deux fois, de me dire, attendez, c'est quoi comme format que vous avez choisi? Ah non, moi, je veux pas passer pour un relou auprès du lecteur. Non, c'est mais c'est
sûr.
Vrai. Hein.
C'est contre-productif, quoi, c'est sûr.
C'est totalement contre-productif. Là, je lisais ce matin la newsletter Le Petit Web qui disait que BMW a lancé une campagne sur Periscope. Donc Periscope, le streaming de Twitter, le live streaming de Twitter qui n'est visible que 24 heures, ils ont vendu 50 voitures en 24 heures via Periscope. Ouf. Et sans publicité particulière. Ils ont juste pris les manettes de leur propre annonce, ils l'ont fait eux-mêmes et ça a marché très bien.
Mmh. Je suis sûr que Le Monde et Le Figaro seront très heureux d'apprendre ces nouveaux modèles de publicité. Ou en tout cas, ça devrait peut-être les inciter à réfléchir à l'évolution de ce type d'annonce, quoi, parce que
c'est crucial de toute façon. Ouais. Ou alors c'est l'abonnement pour tout le monde. Mais ça aussi, on peut comprendre.
Ouais. Quand tu vois des publicités genre vidéo qui s'affichent en plein écran et tu peux même pas zapper pendant, c'est ça qui te fait installer Adblock, quoi. Tu vois ça, tu te dis oui. C'est plus possible, quoi.
C'est assez, surtout sur mobile, tu l'évoquais à l'instant, Marie-Amélie, c'est terrible parce que tu as non seulement, tu as le bandeau pour l'application en haut de la page, puis une pop-up pour te dire, vous ne voudriez pas utiliser notre application pour un confort accru, mais il n'y a rien à foutre de ton confort, moi je suis très bien sur cette page.
En plus maintenant, ce genre de truc pour les applications, tu l'as même sur Windows 10, parce que comme il n'arrive pas à détecter que c'est... Si c'est un phone, des fois sur Windows 10, sur certains sites, il te dit, est-ce que vous voulez pas installer l'application?
D'accord. Beau. Bah écoute, moi, j'ai jamais vu ça sur Windows 10 encore.
Moi, j'ai déjà vu deux, trois fois.
Bah écoute, il y a encore plus de gens qui pourront en profiter sur Windows 10 mobile, puisqu'on passe à la news suivante, et là je vais les enchaîner, vous m'arrêtez si vous avez quelque chose à dire. Windows 10 mobile est enfin lancé sur les anciens appareils. Donc si vous avez un vieux Windows mobile, et ben vous pouvez a priori, s'il est suffisamment récent, enfin le mettre à jour à Windows 10. Donc avis aux quelques utilisateurs. Toujours dans le domaine de la téléphonie, le MVNO Google est ouvert à tous aux US, et c'est le truc qui s'appelle le Project Fi. C'est assez intéressant, en fait c'est un MVNO qui a des contrats au niveau de Google chez différents opérateurs et qui switch de l'un à l'autre en fonction de la force du signal. Là où ça peut être intéressant, c'est si ce concept s'étend au-delà des États-Unis avec un opérateur Google qui vous permettrait de vous connecter n'importe où, peut-être même n'importe où dans le monde. Pourquoi pas avoir Google qui ait des contrats avec plusieurs opérateurs dans plein de pays et qui vous vendent ensuite la surcouche opérateur Google, ça serait magique. Moi, j'adorerais avoir un truc comme ça parce que dès qu'on voyage un petit peu, on le sait, hein, ça coûte super cher d'appeler ou d'utiliser de la data. Ça serait une solution. Vous connaissez le projet de Hyperloop, qui est ces tubes sous vide de transport de personnes et de marchandises, qui permettraient d'aller à deux fois la vitesse d'un TGV. Eh bien, c'était en développement aux États-Unis. Là, il semblerait que la Slovaquie se soit lancée dans un projet de Hyperloop pour l'Europe. Donc, peut-être que ce projet un petit peu fou, imaginé ou en tout cas relancé par Elon Musk, pourrait également arriver en Europe. Donc, c'est plus uniquement les États-Unis qui seraient concernés. Un sujet qui a beaucoup excité beaucoup d'auditeurs et beaucoup de gens sur Twitter, à raison, et partout sur le web, c'est le combat épique entre l'intelligence artificielle de Google et Lee Sedol, le champion de Go. On en avait parlé la dernière fois. Au final, le champion de Go, Lee Sedol, pensait gagner 5-0 ou alors peut-être même 4-1 contre l'intelligence artificielle de Google. Eh bien, figurez-vous que c'est raté. Les ordinateurs arrivent et les robots sont bientôt là, puisque AlphaGo a réussi à battre Lee Sedol 4 fois sur les 5 combats, sur les 5 matchs. Donc, pour info, hein, le jeu de Go est très très complexe pour un ordinateur parce que il y a tellement d'embranchements, tellement de possibilités. Ce qui se passe avec les échecs, c'est que un ordinateur qui joue aux échecs calcule toutes les
possibilités. Ouais.
Voilà, sur jusqu'à la fin du match, à chaque coup, et choisit la meilleure possible. Et sur le Go, ça, il y a tellement de coups possibles que c'est impossible de faire comme ça. Donc il y a d'autres systèmes qui sont utilisés. Et donc là, il a gagné contre Lee Sedol. Il y a un autre super champion qui va peut-être faire un combat contre AlphaGo aussi. Mais pour le moment, Google, en tout cas, a clairement gagné 4-1.
Il me semble que Lee Sedol a dit que, en fait, il avait l'analyse des parties qu'il a fait après coup lui avait permis de réfléchir à une stratégie qui permettait peut-être justement de contrecarrer l'ordinateur dans des prochaines parties. Ça pourrait être intéressant de revoir, enfin, de qu'il refasse justement une partie de 5 contre cet ordinateur pour voir le résultat au final.
Ouais, voir s'il s'adapte et s'il comprend.
Voilà, exactement, ouais. Parce qu'il semblerait, enfin, je crois que j'avais lu ça quelque part, qu'il ait, enfin, plus ou moins compris la façon dont l'ordinateur réfléchissait et.
Bah, en fait, je connais plus le nom de l'autre champion. Je m'en excuse, hein, je suis désolé,
champion
mais
européen,
effectivement.
Celui qui.
Non, c'est un autre champion, asiatique également.
Le numéro 1 mondial?
Ça peut-être doit être lui, oui.
C'est Lee Chang-ho.
Ah, merci. Bah voilà, c'est lui qui avait dit, lui, effectivement, qu'il avait suivi avec beaucoup d'intérêt les matchs en question et qu'il pense pouvoir battre AlphaGo, mais qu'il est moins confiant qu'avant de voir les matchs, en fait. Il pense toujours pouvoir le battre, mais il est moins confiant, donc il se rend compte que AlphaGo est quand même pas mauvais, quoi.
Moi, il y a un truc à chaque fois dans ce genre de cas qui me... Alors oui, le fait que l'intelligence artificielle nous surpasse, bon, mais... C'est combien il y avait de serveurs derrière et combien ça a dépensé en électricité.
Ça serait une bonne question.
Non,
ouais,
non,
je
mais
crois
parce
pas
que
qu'on est...
sérieusement, en fait, on est capable parce qu'on a encore ça pour nous, c'est la miniaturisation.
Mmh, c'est vrai, notre petit cerveau encore est capable de faire des trucs avec ces milliards de neurones. Ouais, je sais pas. Je t'avoue que ça serait une bonne question. En tout cas, Caligon sur Reddit nous a fait passer cette news. Merci à lui. Si tu trouves aussi des infos sur la taille des serveurs d'AlphaGo, peut-être que tu peux nous la faire passer pour le prochain épisode, Caligon.
La consommation électrique totale de tous les matchs, ouais, ça peut être drôle.
Voyons si on peut faire une recherche rapide. AlphaGo serveur.
Je crois qu'on en a parlé dans le dernier apéro. Il me semble que c'était pas si impressionnant que ça. Au final, c'était pas les énormes ordinateurs qu'il pouvait y avoir à l'époque comment il s'appelait l'ordinateur d'IBM là, le
Deep Blue.
Deep Blue, voilà, oui. Ouais. Ça a l'air d'être beaucoup plus raisonnable comparé à cette période-là.
Et alors justement, vous savez, parce que moi j'ai juste vu pendant la semaine là les matchs qui s'égrenaient et ah machin a perdu. La vitesse de calcul de Google, c'était long ou pas?
Alors là, tu me poses une colle aussi. Je t'avoue que
je sais pas du tout.
Non, je sais pas non plus. Entre chaque coup, tu veux dire? C'est une bonne question.
Ça.
Ouais. Je sais pas. J'imagine qu'il y a un timer comme aux échecs, parce que effectivement, si tu laisses 3 jours à AlphaGo pour entre chaque coup, oui, bien sûr, il va trouver, mais j'imagine qu'il y a un timer quand même.
D'accord.
Donc chaque jeu, en fait, visiblement, durait 2 heures en tout.
D'accord.
Donc, effectivement, oui. Tu avais la possibilité, en tout, pour toute la partie, tu avais 2 heures. Donc,
d'accord.
C'est relativement limité. Ouais. Pour le coup, je me tourne vers Siegfried. Tu voulais nous parler d'un sujet. Ben, des vignerons nous l'a posté sur Reddit, lui aussi. Il se passe des trucs avec Boston Dynamics.
Voilà, Boston Dynamics, alors c'est cette société que tout le monde connaît aujourd'hui, avec leurs vidéos qui font un peu le buzz à chaque fois. Donc cette vidéo qui conçoit des robots, enfin qui travaille vraiment sur la recherche sur des robots plus ou moins humanoïdes, beaucoup des humanoïdes, et surtout qui est financé. Enfin, je ne sais pas s'ils sont financés principalement par la DARPA, mais en tout cas, clairement, c'est des robots qui ont plutôt une vocation militaire. Alors, ils avaient été rachetés par Google il y a de ça 2 ans, je crois. Ça fait 2 ans, ouais. C'est pas si vieux que ça. Et donc, en tout cas, la dernière vidéo qu'ils ont postée, c'était la fameuse vidéo du nouveau modèle d'Atlas. Vous l'avez vu, je pense, non?
Oui. Il y avait une vidéo très. En fait, ils avaient posté une vidéo dont on avait parlé la dernière fois avec le chien de Andy Rubin aussi. Je sais pas si t'avais vu celle-là où oui. leur chien jouait avec le chien d'Andy Rubin, oui, un vrai chien quoi. Leur chien robot. Et mais oui, il y avait Atlas qui était hyper impressionnant aussi, qui marchait. Et...
Voilà, qui donc arrive à se relever tout seul maintenant, qui a toujours cet équilibre assez impressionnant. Et donc Google a annoncé, je crois que ça date d'il y a quelques jours. Qu'il voulait donc revendre Boston Dynamics. Alors, officiellement, plus ou moins, parce que c'est pas trop dans leur nouvelle politique avec Alphabet et tout. C'est des projets à trop long terme qui n'ont pas véritablement d'applications qui leur sont utiles, etc.
Ouais, mais la rumeur. Ce qu'ils ont dit, effectivement, voilà. C'est que c'était parce qu'ils ne voyaient pas d'applications financièrement viables dans les années à venir.
Voilà. Et alors après, il y a la rumeur qui dit que au sein de Google même, ils trouvaient que les robots étaient terrifiants et que c'était très mauvais pour leur image de marque. Voilà, parce que forcément, dès qu'il y a une vidéo qui sort, c'est Skynet, Terminator, tout ça. ce qu'on peut comprendre, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu flippant de voir ces robots, quoi.
Ah bah ça, plus les matchs de Go, oui, ça fait beaucoup quand même. Hein.
Voilà, ouais. Je pense que les deux combinés donnent une belle image du futur. Alors la question, ça va être à qui ils vont vendre ça, parce que il y a peut-être assez peu de gens intéressés. Est-ce qu'ils seraient capables de revendre ça à une boîte qui fait dans les armes et les militaires? Ça serait quand même assez étrange à part de Google. Je sais pas.
Ouais, c'est une bonne question. Peut-être qu'un autre. Moi, je verrais bien Elon Musk se plonger là-dedans. On en parlait à propos de l'Hyperloop. Je verrais bien Elon Musk se plonger là-dedans.
Ouais, c'est vrai.
Et à vrai dire, il y a on a un petit problème. Je l'évoquais il y a un moment. Par rapport à l'Asie au niveau compétitivité pour les robots, parce que nous on pense systématiquement effectivement à Skynet, Terminator, Apocalypse, les robots vont venir prendre notre travail et manger notre pain et prendre nos femmes, tu vois, c'est un petit peu ça. Alors que en Asie, ils ont une image beaucoup plus positive pour les Asiatiques, au Japon en particulier. Les robots, c'est les gentils robots, quoi, qui vous aident, qui font les assistants ou les qui s'occupent des enfants. Enfin, c'est vraiment une image beaucoup plus ronde, beaucoup plus douce de la robotique. Alors qu'ici, on pense tout de suite, ça dit peut-être quelque chose sur nos sociétés. On pense tout de suite à applications militaires, Terminator avec ses ouais. armes, etc.
Alors au Japon, c'est vrai qu'ils ont surtout pour les personnes âgées, ils ont beaucoup développé les robots dans une optique vraiment domestique. Par contre, si tu regardes la Corée, par exemple, avec Samsung, qui est bon, Samsung, c'est un énorme conglomérat qui fait énormément de choses et qui font aussi des robots. Alors, il y a des robots qui sont plus ou moins, qui sont grand public, entre guillemets, mais Samsung développe aussi des robots militaires. Et ça, il y a assez peu de personnes qui le savent. Entre autres, je crois, des robots qui surveillent la frontière sud-nord-coréenne. Alors qu'ils sont pas armés, mais qui en tout cas sont des véritables robots à usage militaire.
Mais ce que je voulais dire, bon, c'est sûr que de toute façon les applications peuvent arriver dans tous ces domaines. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un petit peu dommage qu'en Europe, on ait en Occident même plutôt, on ait cette image apocalyptique du robot. Voilà, c'est préjugé parce que ça veut dire. Alors. Bien sûr, il faut être prudent quand on développe ce genre de choses, mais ça veut dire qu'on risque de reprendre du retard sur ce type de technologie, alors que finalement, il est à peu près certain, la technologie va pas s'arrêter tout à coup, il est à peu près certain que ça va continuer, et ça pourrait donner un avantage compétitif aux industriels asiatiques. J'ai trouvé ça intéressant que, dans cette lignée, Google se débarrasse de Boston Dynamics, alors qu'ils sont tellement avancés, quoi.
Ouais. Peut-être qu'Orange pourrait en profiter pour le racheter, quoi.
Orange, ouais, pourquoi pas.
Il vient de retirer ta Livebox directement.
C'est ça, oui, exactement. En plus de la, comment ça s'appelle, la Airbox, tu as en plus un petit Atlas, un mini Atlas robot qui vient te surveiller pendant que tu dors avec sa petite lumière rouge qui bouge.
Mais après, sans virer parano et tout, c'est souvent le cas dans les grandes acquisitions et c'est exactement ce qui s'est passé avec Google et Motorola. C'est qu'on rachète un truc, on récupère tous les brevets. Et puis on le revend après.
Mais là, j'ai pas l'impression qu'il garde les brevets. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il se débarrasse du tout dans son ensemble. Ouais. Donc, je crois pas que ça s'applique là.
Des coups de balai, il faut tout sous la maquette.
Ouais, un petit peu. Ouais. Mais tu sais quoi, du coup, je pense que ta deuxième news que tu as là va mettre tout le monde d'accord voilà. À propos des robots.
Ouais, exactement. Alors, c'est une deuxième news. Alors, on est encore très loin d'une application, mais Domino Pizza a présenté un robot livreur de pizza. Alors, je trouvais ça assez drôle, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de ce robot autostoppeur qui avait été lancé au Canada.
Et qui avait parcouru une bonne distance.
Voilà, qui avait fait, donc c'était plus une expérience sociologique que véritablement une expérience robotique. En tout cas, l'objectif, c'était de faire un robot autostoppeur qui devait traverser le Canada. Il a effectivement traversé le Canada. Ils avaient retenté l'expérience aux États-Unis, et je crois qu'aux États-Unis, il avait fait 20 km avant de finir horriblement démembré dans une ruelle sombre, couvert de graffiti. Je ne sais plus où c'est qu'il est mort. Je ne sais pas si c'était à Chicago, à Détroit, enfin bref. Voilà, mais en tout cas, Domino Pizza a présenté ce robot. C'est aussi une façon de faire parler d'eux, qui livrerait les pizzas et donc qui remplacerait très efficacement, sans aucun doute, les livreurs qu'il faut payer. Voilà.
Oui, bon. J'ai aussi vu une news sur un robot qui ferait des pizzas carrément.
Mais ça, je crois que ça existe déjà, non?
Ah oui, d'accord. Bon,
je sais plus. Je faudrait que je regarde.
Tu vois, c'est le début. Ils commencent à venir prendre nos boulots.
Voilà, ouais. Le truc marrant aussi, c'est que le robot de Domino Pizza, qui s'appelle DRU, apparemment, c'est une déclinaison d'un modèle militaire. Ça vous fait rire, parce que tu sais, c'est le début de films de science-fiction, quand t'as un robot militaire qui est détourné vers un autre usage et qui retrouve ses anciens paramètres.
Le robot livreur de pizza qui retrouve tout à coup sa Kalachnikov. Non, pas sa Kalachnikov, son M16.
Qui essaye de te tuer, tu sais, avec la roulette pour découper les pizzas. Là. Ça fait un bon film d'horreur.
Ah oui, non, c'est pas bête, ouais. Bon, une autre histoire de Captain, mais là c'est Captain Train qui a été racheté par Trainline, qui est un anglais, et Captain Train c'était une réussite française, du coup ça a donné lieu à ça a ravivé le débat, est-ce que les startups à succès doivent se vendre à l'étranger ou est-ce qu'il faut garder nos pépites? On n'a pas plus de réponses aujourd'hui, je sais pas si ça vous a inspiré quelque chose, mais...
Techniquement, c'est des Anglais. Dans les faits, c'est des Américains, parce que Trainline appartient à un fonds de pension américain. Après, on ne peut pas essayer d'avoir des boîtes internationales et les garder chez nous quand ça nous arrange. Hein.
Oui, c'est pas faux.
C'est quand même compliqué. Ce qui est peut-être dommage, c'est qu'ils n'aient pas trouvé de levier de financement suffisant en France. Mais ça, c'est toujours le même problème. Mais après, qu'ils soient partis chez les Anglais, on leur souhaite juste pas une fin à la Pixmania, où on récupère juste leurs algorithmes et on démantèle le tout. Ouais. Parce que c'est ce qui s'est passé avec Pixmania, par exemple, et avec d'autres, parce que la valeur de Captain Train, c'était justement, outre cette UX et ce ton décalé, c'était surtout les algorithmes maison de mise en relation et de très très rapide vers les différents systèmes de réservation des trains dans l'Europe entière.
Je crois que c'est aussi un rachat de marché, parce qu'ils se complètent bien entre Trainline et Captain Train. Donc, bon, je ne sais pas ce que ça donnera, mais espérons que ce dont on parlait à l'époque de la question sur Dailymotion se concrétisera, c'est-à-dire des retombées, en fait, sur le marché français aussi, puisque plus on a de réussite de ce genre-là, plus ça développe parce qu'ils reviennent et qu'ils continuent à financer, ou alors parce que ça inspire, ça développe aussi l'écosystème local. Donc.
Après, je ne sais pas quel est du tout le deal que Jean-Daniel Guillot, le boss de Captain Train, a fait, mais généralement, ils sont là pour 2-3 ans après le rachat.
Et après,
ils se font avec un gros chèque, exactement, et il y a à peu près 99% de chances pour que Jean-Daniel Guillot monte autre chose derrière.
Exactement, ouais, c'est ce dont on parlait à l'époque.
C'est jamais vraiment perdu. Alors, il se sera peut-être monté avec une adresse fiscale belge, hein, ça c'est possible. Mais par contre, ça va produire de la richesse, en tout cas intellectuelle, et de l'innovation en France.
Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quand même Captain Train, c'est un site qui a été entièrement monté sur la mauvaise qualité de du site de la SNCF. Quoi.
C'est
quand même fou comme business model. Quoi. C'est-à-dire, ils sont tellement mauvais qu'on va faire quelque chose qui va améliorer les choses. Et effectivement, ça fonctionne bien.
Mmh. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le signaler. Le business a été monté sur la mauvaise qualité du site d'origine, en fait.
Bah oui.
C'était presque une interface utilisateur correct, enfin très bonne,
mais la réponse effectivement au service déficient. Mais et regardez ce qui fonctionne avec Captain Train, pourquoi est-ce que ça marche pas avec les médias?
C'est exactement ce que j'allais dire.
La pub toutes les 3 minutes, ce qui est un peu le cas de Voyage SNCF. Et du coup, Captain Train a pris l'exact inverse en disant bon bah nous on va faire du volume et on va se financer sur les petites marges. Ben voilà.
Ouais, peut-être parce que la création de contenu en fait coûte plus cher que la création d'interface dont a pu faire preuve Captain Train. Donc
Et puis avec suffit de voir ce qui s'est passé avec Google News avec les journaux quoi, c'est aussi
Ouais, c'est aussi un petit peu mais oui, c'est non mais tendu, bon, il y a clairement un truc à faire au niveau
ah oui, c'est
de
ce qui clair.
Est... Si on
non,
a
Non, je pensais
si
à l'aspect on... utilisateur. Oula,
attention Marie, tu parles très très proche de ton micro de temps en temps, ça fait sauter le niveau du son.
Je pensais à l'aspect utilisateur, c'est-à-dire que Captain Train s'est mis à la place des gens qui veulent acheter des billets de train. Si les éditeurs de contenu se mettent à la place des gens qui veulent lire des contenus, c'est uniquement dans cette comparaison-là, hein. Évidemment pas sur le même business model.
T'as complètement raison. C'est vraiment ce qui manque aux médias et en particulier aux médias français aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui s'y mettent, pas beaucoup, mais il y a notamment Numérama qui fait très bien dans ce domaine, je trouve. Mais ouais, c'est une réflexion c'est ça qui m'a frappé vraiment. Bon, on va pas refaire le débat, mais c'est vraiment le fait que, il n'y a pas du tout cette réflexion. On a l'impression que ça leur passe complètement au-dessus, quoi. L'importance, s'il y a une meilleure preuve de l'importance de l'interface utilisateur, je pense que, on peut pas avoir mieux que ça, quoi.
C'est ça.
Le mariage Orange et Bouygues continue à se préciser. Il se pourrait que SFR rachète les clients de Bouygues et que Orange récupère le reste. Il y a peut-être même Free dans l'histoire. Mais bon, bref, on n'a pas encore tous les détails.
Il y aura Free dans l'histoire, je crois. C'est obligatoire pour pas qu'il y ait justement un problème de concurrence.
C'est ça.
Il me semble qu'ils sont, vraiment obligés de faire un deal à trois
Pour que ça puisse se faire. Ouais.
Ouais, pour que ça puisse se faire.
Et enfin, Free French sur Reddit, toujours, nous a envoyé un sujet avec un abonné de Numéricable
A
été suspecté à tort de pédopornographie pendant... Ça a duré des mois et des années, cette histoire.
Ça a duré un an et demi. J'en ai parlé justement dans le dernier apéro. C'est une histoire fantastique. Oui, est-ce qu'apparemment, si je peux...
Vas-y.
Ok, d'accord. Donc... En gros, pour résumer l'histoire, vous connaissez tous Adopi qui demande les RSIP des contrevenants et donc Numéricable, par exemple, renvoie les RSIP. Donc évidemment, comme ils ne voulaient pas faire ça à la main, ils ont créé un logiciel pour le faire automatiquement. Sauf que le logiciel, quand il ne trouvait pas l'adresse IP d'une personne pour telle ou telle raison technique, il renvoyait tout le temps l'adresse IP de la même personne. Et donc, le gars s'est retrouvé avec 1500 dénonciations auprès de la DEPI, ce qui est quand même balèze. Mais bon, il n'y a pas que la DEPI qui demande, il y a aussi la gendarmerie et la police nationale qui, des fois, demandent des IP. Il s'est retrouvé impliqué aussi dans une dizaine d'affaires, quoi. Donc, l'enfer pour lui. Et ça a mis un an et demi avant que Numéricable se bouge ses fesses pour...
Voilà, Numéricable accepte de regarder au plus près, dans son code, pour voir pourquoi... Alors, heureusement, les autorités se sont bien rendues compte qu'il y avait un problème.
Ils sont quand même allés lui saisir du matériel et faire 2-3 descentes.
Plusieurs fois, ouais.
Plusieurs fois avant de s'en rendre compte, quoi.
C'est ça, oui, bien sûr. Disons que quand ça a commencé à faire 1500 contraventions... oui, ils se sont bien rendus compte que
c'était pas
normal.
A priori, c'est la DEPI qui a porté plainte auprès de la CNIL, si je me souviens bien de l'histoire.
Un truc du genre, oui. Parce que ils se sont bien rendus compte que... Donc, une histoire assez, assez terrible. Et ça prouve encore une fois que la technique n'est pas infaillible. Et du coup, ça peut être un petit peu compliqué parfois pour certaines choses. Ce qui m'amène à faire mon petit topo Apple versus NSA et... Non, Apple versus FBI plutôt. Vous le savez, je le laisse à la fin des émissions parce que je veux pas vampiriser le reste de l'émission parce que c'est un sujet qui revient à chaque émission presque. Encore que là, ça commence à se calmer un petit peu. Peut-être que sur les épisodes à venir, on n'en aura pas autant. Donc, les topos, les points à retenir sur ces deux dernières semaines. D'une part, les données collectées par la NSA, vous savez, celles qui devaient être utilisées absolument seulement pour des histoires de terrorisme. Et vous inquiétez pas, oui, on collecte les données, mais c'est vraiment pour arrêter les méchants terroristes. Eh ben, surprise, finalement, elles vont être utilisées pour autre chose que le terrorisme, pour des affaires qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Donc, un exemple de plus de « oui, vous inquiétez pas, ça sera juste pour ça ». Eh ben oui, on sait comment ça se passe, et là, c'est une preuve de plus. Jim Biscuit nous a envoyé un lien que beaucoup d'entre vous nous ont fait parvenir. C'est l'émission de John Oliver, Last Week Tonight. Je sais pas si vous la suivez, mais il a fait un sujet sur cette affaire Apple contre le FBI, et il a très bien synthétisé les problèmes que pose cette question, qu'on se pose tous. Il y a deux points que je voudrais noter dans tout ce qu'il a dit. C'est, encore une fois, c'est des choses dont on a parlé, nous, dans le rendez-vous tech et ailleurs dans les cercles tech depuis très longtemps, mais visiblement, l'opinion publique générale commence à les comprendre parce que ce sujet a été mis sur le devant de la scène. D'une part, ça ne concerne pas que les données des terroristes ou même les histoires de données qui pourraient servir aux services de police, ça concerne toutes nos données. Il faut bien comprendre que tout ce que vous avez sur votre téléphone, les localisations de vous et de vos proches, les messages que vous archivez, les sites que vous consultez, absolument tout, c'est protégé par le chiffrement. À partir du moment où le chiffrement est affaibli, eh ben c'est toutes ces données qui sont à risque, qui sont possiblement en danger. C'est pas juste les données de certaines personnes, certains terroristes, parce que le chiffrement, c'est quand on commence à tirer sur le fil, c'est un petit peu tout qui s'effondre. Et l'autre point sur lequel il a beaucoup insisté, c'est que si on commence à affaiblir le chiffrement sur certaines apps, eh ben tout simplement, les gens qui ont des choses, qui veulent faire des choses secrètes, vont utiliser d'autres apps qui verront le jour immédiatement, comme on l'a dit plusieurs fois. Et il a donné quelques exemples d'apps existantes et d'apps qui n'existaient pas encore, mais il l'a dit avec beaucoup d'humour. Le jour où le chiffrement de ces apps-là tombe, eh ben ces autres apps qui n'existent pas encore existeront en 3 jours. Ça prend vraiment quelques instants pour recréer une nouvelle app. J'exagère à peine. Donc encore une fois, on ne peut pas abattre totalement le chiffrement ou en tout cas pouvoir espionner les gens qui veulent cacher quelque chose. Donc au final, on en revient à espionner que les gens qui n'ont rien à cacher, ce qui est pas vraiment hyper malin. Et encore, je finis juste avec ce sujet. Il y a quand on parle de les agences d'État qui pourront garder bien sûr cette clé secrète qui peut tout ouvrir, mais vous inquiétez pas, on la donne qu'à une personne et il ne l'utilisera que quand ça sera vraiment très très important pour des histoires de terrorisme ou de pédophilie, hein, bien sûr. Eh ben, figurez-vous qu'il y avait un cas, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais il n'empêche, il y avait un procès entre l'Avabit et le gouvernement américain. L'Avabit avait hébergé les données d'Edward Snowden. Et le gouvernement américain, enfin une agence de surveillance, avait demandé d'avoir les données d'Edward Snowden à l'Avabit. Mais l'Avabit ne vous pouvait pas dire de quel utilisateur les données avaient été demandées. Et l'Avabit demandait depuis des années, était en procès avec cette agence de renseignement pour avoir le droit de dire de qui il s'agissait. C'était vraiment un gros procès, un truc important. Eh bien, figurez-vous que lors de l'un de ces échanges officiels, légaux, en fait, l'agence en question a fourni des documents où ils ont caché les mauvaises parties, ou en tout cas, ils ont voulu ajouter des parties cachées aux documents qu'ils livraient pour le procès, et ils ont oublié de cacher le nom de la personne qui était concernée. Et donc, ils ont livré des documents publiquement avec le nom d'Edward Snowden en clair, ce qui a confirmé que c'était bien lui qu'ils cherchaient. On le savait tous, mais c'était un truc qu'ils ne voulaient pas avouer. Et ils ont confirmé que c'était bien d'Edward Snowden qu'ils voulaient avoir les données avec cette erreur dans le processus. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les histoires de chiffrement et de clés anti-chiffrement. Mais si on peut imaginer, si on est suffisamment naïf pour imaginer une seule seconde que ce type d'information et de processus pourrait rester entièrement caché dans des organisations aussi larges que celles aux États-Unis qui s'occupent de la surveillance, comme le FBI, la NSA, etc., etc., qui sont énormes et auxquelles énormément, de plus en plus de gens voudront avoir accès. On sait déjà qu'il y a des dizaines de téléphones qui sont concernés dans énormément d'agences policières. Si on peut imaginer un instant que ça, ils ne feront pas, même avec la meilleure volonté du monde, à un moment une erreur qui mettrait en danger tous les téléphones à cause de cet accès super secret en théorie, je pense qu'il faut être particulièrement naïf. Donc bref, voilà, c'était mon topo. Siegfried, tu voulais dire quelque chose aussi ?
Non, je crois que tu as bien résumé la situation. De toute façon, c'est ouvrir la boîte de Pandore, hein, c'est toujours la même chose.
Bon. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à l'émission. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu, chers auditeurs. Si vous en voulez plus, je vous invite à aller découvrir les contenus proposés, notamment par Siegfried. Est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent te retrouver ?
Oula, alors dans plein d'endroits. Déjà sur notre site web, captainweb.net. Ensuite sur iTunes, bien sûr. Vous cherchez Captain Web, vous devriez nous trouver. Facebook, Twitter, vous aurez pas de mal à nous retrouver un peu partout. Et puis on a aussi un podcast, plutôt une web série qui s'appelle L'Histoire de France. Je ne sais pas si tu as écouté, Patrick.
Oui, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs.
Donc nous résumons l'Histoire de France à notre façon, quand on a le temps de le faire, c'est-à-dire pas souvent. Et puis bientôt, je suis en train de faire un podcast qui sera un podcast sur le cybercafé, puisque je tiens le cybercafé à Paris et on va raconter un peu toutes nos histoires. Voilà, ce sera aussi sur iTunes.
Sympa. Voilà, voilà. Tu as déjà le nom ou pas encore ?
Oui, ça s'appelle Le Dernier Cyber avant la fin du monde.
Ah, d'accord. Pas mal, pas mal. Et d'ailleurs, entre parenthèses, l'Histoire de France, l'avantage, c'est que c'est pas sur l'actualité, donc vous pouvez aller l'écouter depuis le début, même si vous avez pas...
Oui, oui, tout à fait. Donc, mais même, au final, l'actualité, vu qu'on sort les podcasts avec 2 mois de retard, même pour l'apéro, ça change pas grand-chose.
Marie-Amélie, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils souhaitent en avoir plus ?
Girlsinweb.com avec un Z ou Facebook ou Twitter.
Super, donc voilà. Girls in Web, magnifique. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous avez aussi le rendez-vous jeu en alternance où on parlera un petit peu plus longuement de la réalité virtuelle, je pense. Entre autres, on parlera aussi de The Division et de plein d'autres choses dans le prochain épisode, mais vous en avez quelques-uns à écouter également si vous n'avez jamais écouté l'émission. C'est en alternance, donc toutes les deux semaines, un lundi sur deux avec le rendez-vous tech. N'oubliez pas non plus que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Les liens sont un petit peu partout sur le site et même dans les notes du podcast. Donc vous pouvez retrouver ça. Et si vous estimez que l'émission, c'est une émission qui vous plaît, qui vous apporte quelque chose, qui vous permet de gagner du temps ou de passer un bon moment, pensez-y. Peut-être que ça vaudra le coup de participer à l'émission et d'aider à atteindre le prochain palier qui nous permettrait de rémunérer certains des co-animateurs réguliers qui nous aident à la faire. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve, quoi qu'il arrive, dans 2 semaines. Enfin, je sais pas comment ça se passera d'ailleurs, parce que si vous vous en souvenez, je pars dans 10 jours au Japon pour 2 mois. Alors, chanceux. Les émissions... Oui, je sais bien. Les émissions continueront normalement, hein, à peu près normalement. Il y aura bien sûr un rendez-vous tech, mais le prochain sera peut-être un petit peu spécial, je sais pas, on va voir comment on va faire, mais il sera là de toute façon, ne vous inquiétez pas, avec peut-être des news du Japon même. En tout cas, je vous dirai comment ça se passe. Je vous remercie donc beaucoup et je vous dis dans à peu près 2 semaines. Ciao à tous.